Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipée sauvage.
Place à la seconde partie de cette équipée confinée avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et nos journalistes compétiteurs toujours motivés, toujours prêts à se défier à coups de chroniques. Bonne humeur et découverte donc au menu avec Mathieu Noël qui prend des nouvelles, vous le savez, régulièrement, des nouvelles d'une personnalité ou d'un artiste pour savoir comment il vit son confinement. Bienvenue dans les meilleurs moments de l'équipée sauvage.
Cet après-midi, les amis, avec notre invité Mel Rabédia, on regarde dans le rétro. C'était le vendredi 13 mars dernier. On riait tous ensemble, en public. Alain Sirou nous avait même acheté des tickets de loto et on se prenait à rêver. Mais vous imaginez si quelqu'un gagne, on revient, on fait une spéciale émission, mais c'est la dernière du coup, parce qu'on en fout.
Et par contre, on ramène vraiment des putes, de l'alcool et tout.
Et on mettra une barre de pole dance pour avoir une petite démonstration.
Et je peux vous dire que millionnaire, je me frotte une heure.
C'était il y a une éternité, c'était il y a un mois. C'était avant le confinement. Mel Rabédia, c'est aujourd'hui que sort finalement le film que vous avez coécrit, hein, il faut le dire, fort, vous êtes vraiment à l'initiative de ce projet sur Amazon Prime, donc il va falloir s'abonner à Amazon Prime. Eva, ça coûte combien ?
Oui, alors si je puis me permettre, c'est gratuit le premier mois. Voilà.
Exactement, exactement ce que j'allais dire. Voilà.
C'est le moment ou jamais.
Elle est trop verte comme moi, j'adore.
Mais oui.
Alors Melra, vous avez proposé lundi sur Instagram une nouvelle bande-annonce résumant parfaitement la situation, on en écoute un extrait.
Melra Bédia était une fille pleine d'entrain et d'optimisme. Elle était sur le point de réaliser son rêve de gosse, sortir son film au cinéma. Jusqu'au jour où le sort s'acharne. Elle a pas eu de chatte, quoi.
J'ai donc décidé la fermeture de tous les lieux recevant du public, notamment des restaurants, cinémas, discothèques.
Le couperet tomba. La sentence était irrévocable. Melra l'avait dans le baba.
Alors Melra, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez hésité ? Est-ce que vous vous êtes dit, on va attendre et sortir le film, je ne sais pas, en septembre, avec tous les risques que ça comporte, qu'il y ait un embouteillage de film ? Ou est-ce que tout de suite, vous avez milité pour cette option de sortir sur une plateforme VOD ?
Bah, au début, on y croyait vraiment jusqu'à la fin. La preuve, on était venus chez vous vraiment.
C'est vrai.
Jusqu'au dernier moment. On y a cru, on pensait qu'un vaccin allait être trouvé en 24 heures, mais visiblement, non. Franchement, on nous a proposé différentes dates. Et après, on a réfléchi. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il faut essayer d'être un peu plus moderne que d'habitude et arrêter de penser qu'à soi et au fait que c'est super classe d'être dans un... Là, on s'en fout du cinéma. On ne sait même pas si les cinémas vont réouvrir tout de suite. Donc, franchement, je me suis dit, l'idéal, ce serait de s'adapter à cette situation et rien de mieux que les plateformes pour aller rencontrer son public tout de suite dans leur living room et leur canapé et leur foyer qui est en train de battre de l'aile.
En plus, ça va faire du bien. C'est vraiment la comédie dont on a envie
avec,
en ce moment.
Avec Eva, on l'avait vu à l'époque. Ouais. On vous le conseille. C'est vraiment le film Feel Good à découvrir en ce moment qui va vous faire du bien. Vous pouvez le découvrir donc avec Alison Wheeler, Valérie Lemercier également sur Amazon Prime dès aujourd'hui. Mel Rabédia reste avec nous.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'infos, de rires, mais aussi de belles rencontres, comme celle qu'on a faite le 13 mars dernier. On ne savait pas encore que ça serait notre dernière émission avant le confinement. On recevait Alison Wheeler et Mel Rabédia, deux comédiennes talentueuses qui n'ont commis, finalement, durant l'émission, qu'une seule erreur, voler la vedette à Eva Rock, qui s'est permis de leur faire remarquer lorsque, durant un disque, elle se lâchait un peu trop à son goût.
Mais non.
J'ai perdu la tête. Le chemin de ma maison.
Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la...
C'est bon, les filles ? Ouais ?
Ah oui,
on y va.
On y va. Mais dis donc, Eva, respectez un peu les invités si elles ont envie de chanter. Alors,
allez, vous avez merci, même le droit de chanter aujourd'hui, Melra.
Merci d'être avec nous. On le rappelle, Fort, le film que vous étiez venu nous présenter donc le 13 mars dernier n'est pas sorti en salle, mais il sort sur Amazon Prime dès aujourd'hui, ce qui pourrait avoir une conséquence finalement inattendue, faire de vous une star internationale.
Écoutez, c'est un peu le risque. Écoutez, je veux bien essayer, je veux bien tenter le coup. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est vrai qu'après, il sort dans 250 pays, donc vraiment, vraiment, j'ai hâte.
C'est-à-dire que c'est aujourd'hui dans les 250 pays ou c'est d'abord une sortie Amazon Prime France ?
C'est d'abord la France et je crois qu'ils ont besoin d'une petite semaine, voire 10 jours de doublage, vraiment.
Ah oui.
Dans toutes les langues et après, ils le balancent sur toutes les autres plateformes dans le monde.
On rappelle en quelques mots l'histoire. Vous interprétez Nour, vous avez quelques kilos en trop, un bonnet en guise de coupe de cheveux, vous êtes plus à l'aise en jogging basket qu'en talon aiguille. Vous avez un peu de mal avec les hommes qui vous considèrent plus souvent comme leur meilleur pote que comme une potentielle target. Et vous décidez, pour remédier à tout ça, de vous mettre au pole dance. Et j'ai découvert avec vous que le pole dance n'était pas un truc à la con, mais un véritable sport.
Ah oui.
On a tous des... Je vous jure qu'on a tous eu des a priori, ma mère la première, je vous jure que c'est vrai. Mais au final, c'est pas juste des meufs frivoles qu'on chaud et qui sont en shorty et qui se frottent à la barre pour exciter l'homme, je vous jure. C'est bien plus profond que ça, sans mauvais jeu de mots, je vous jure. Et du coup, bah moi, ça m'a fait du bien, la pole dance, je vous dise. J'allais les juger, et en allant les juger, je me suis rendu compte que c'était un sport à part entière. Qu'en fait, c'était pas des femmes frivoles et légères, c'était aussi des femmes qui étaient des athlètes. Parce que, Mathieu, demain, dès qu'on sort du confinement, je m'engage à vous emmener faire un cours de pole dance, et vous allez comprendre votre douleur.
Ah oui, voilà. je serais incapable
c'est
de faire quoi
curling,
que ce soit avec une barre.
Curling, c'est vraiment pour les bouffons, je vous le dis.
Et Melra, est-ce que justement, pendant le confinement, alors qu'on essaye tous de faire du sport, plus ou moins du yoga, des conneries comme ça, est-ce que vous continuez le pole dance chez vous? Vous avez une barre à disposition?
Bah, écoutez, je vais pas vous mentir, je suis en confinement chez ma cousine à Levallois-Perret, j'ai essayé de décrocher sa tringle, elle m'a défoncé avec, je vous jure, c'est vrai. Il dit non mais laisse-moi essayer, je fais un truc rigolo, j'ai enlevé la tringle, elle m'a défoncé.
Comment ça se passe comment ça se passe le confinement?
C'est chaud. Hein.
Ouais. Comment ça se passe sinon le confinement, Melra? Vous avez plutôt la pêche
fou,
ou
la pole dance, c'est chaud? Elle m'a dit ouais. Alors comment ça se passe?
Eva, elle est partie sur sa question. Hein.
Non mais parce qu'elle sait que je suis une... en fait c'est une menace. Elle sait que je vais serrer les gens du studio d'Europe 1 après.
J'ai trop peur.
Pardon, non, dites-moi.
Non mais parce que vous avez voilà, on a l'impression que vous avez la pêche et que vous êtes en plus contente de la sortie de ce film sur Amazon. Est-ce que vous gardez le moral tous les jours ou c'est un peu dur cette période de confinement, vous qui êtes hyper énergique et qu'on imagine hyper active?
Bah écoutez, moi à la base, pour tout vous dire, je suis hypochondriaque. Donc comment vous dire que en fait pour une hypochondriaque, ce qui est en train de se passer, c'est un truc qu'on avait prévu il y a 15 ans et personne ne nous écoutait. Hein. Mmh. On a toujours dit qu'un jour il y allait avoir une pandémie, que le gouvernement n'allait pas avoir assez de masques et tout. C'était une vanne à la base, sauf que c'est vraiment en train d'arriver. Et du coup, bizarrement, en tant qu'hypochondriaque, je vois que c'est tellement grave ce qui est en train de se passer. Il y a tellement des choses qu'on n'est pas en train de respecter. On n'a jamais respecté, on n'a jamais regardé vraiment dans le blanc des yeux ce personnel soignant. On le calculait à peine. On était les premiers à dire oh, les infirmières, elles sont reloues, elles ne savent pas trouver la veine quand elles nous font une. Ben, en fait, c'est quoi? On va commencer à ravaler un peu et fermer nos petits clapets de Français qui se plaignent tout le temps. Et il va falloir regarder un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qu'on ne considérait pas, qu'on va devoir considérer. Et moi, je suis pour qu'on augmente les infirmières, le personnel soignant, les éboueurs, les caissières, tous les gens qu'on calculait peu, finalement. Et en fait, il y a une vraie prise de conscience. Donc, je suis un peu contente et je vais me présenter en politique. Voilà, je suis très premier degré.
C'est parti, une autre carrière s'offre à vous. Melra, est-ce que vous bossez actuellement? Alors, vous êtes active sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous écrivez, par exemple, un deuxième film ou est-ce que vous êtes encore dans un moment un petit peu de sidération par rapport à l'épidémie où c'est difficile, finalement, de créer une œuvre?
Non, mais comme tout le monde, il faut bien s'occuper. Et il n'y a rien de mieux que de faire des Skype. Moi, je fais un Skype... tous les jours avec Alison, on écrit le prochain film et j'ai un autre film aussi que je développe avec Anthony Marciano. Donc je crois qu'on fait que des Skype et des FaceTime, on fait semblant de travailler, mais ça nous fait du bien.
Pourquoi
ça
faire semblant en même temps? Ouais, vous faites pas semblant si vous écrivez.
Non, mais on fait semblant parce que je dis qu'on fait semblant parce qu'à un moment donné, il y a toujours BFM en fond et dès qu'il y a le Premier ministre qui va parler avec sa barbe à moitié blanche, on se dit oulala, attends, on bouge pas, pause, pousse, on travaillera demain, je vais aller écouter ce qu'il nous raconte. Donc je dis on fait semblant, mais parce qu'on a toujours l'esprit dans cette fameuse crise sanitaire. Quoi. On se dit putain, comment on va faire?
Forte, le film que vous défendez, qu'on retrouve sur Amazon Prime, nous raconte l'importance d'être soi-même, de se trouver finalement. Est-ce que cette période étrange qu'on est tous en train de vivre, selon vous, va nous changer individuellement? Est-ce que c'est le moment de réfléchir à qui on est, ce qu'on veut faire de notre vie? Est-ce que vous pensez que vous serez une Melra différente à la sortie du confinement?
Ben, j'espère, franchement, j'espère. Enfin, j'espère que. Mais j'ai l'impression que les Français sont en train un peu de réfléchir autrement. J'ai l'impression qu'on est tout de suite plus solidaires, on a plus le temps de penser à l'autre. Et je trouve que dans notre malheur, il y a un truc qui est en train de se bouger. C'est pas mal. Il y a un truc où on a l'air d'être meilleur. Après, peut-être que je suis trop utopiste, mais j'ai l'impression que les voisins, ils découvrent enfin qu'il y avait des personnes âgées dans leur immeuble. Moi, j'ai découvert des tantes. J'avais pas pris de nouvelles de mes tantes depuis très longtemps. Bah, là, je fais des FaceTime. Enfin, j'ai l'impression qu'on devient des meilleurs humains. Je sais pas. Hein. Vous apparemment, non.
Hein. Ah, non, moi, je suis toujours aussi détestable. On a toujours rien à foutre. Hein.
Ah ouais,
moi, je suis hypochondriaque comme toi, mais
parler,
je suis.
Je vois que personne est d'accord avec moi, donc je me dis, bon, en fait, vous deux, vous n'êtes pas... Ok, d'accord. Il n'y a que moi qui ai un cœur blanc. Ok, très bien.
Non, mais Mathieu n'a pas de cœur, je vous confirme. Mais c'est-à-dire que j'arrête pas de vouloir faire des FaceTime avec lui, il ne répond même pas, quoi. Il appuie
alors,
sur le bouton.
Ouais. Eva, on va pas prendre Melra à témoin, mais pour votre anniversaire, j'ai essayé d'organiser un apéro FaceTime géant. Vous m'avez dit, oh non, j'aime pas ça, je veux pas donner mes données privées sur l'application Scoop ou je sais pas quoi.
Oui, voilà,
alors, vous
ça.
Foutez pas de ma gueule, Eva.
Non, c'est vrai.
Si, je vous avais dit, bien sûr.
Ah, je vous dis qu'elle était méfiante. Je la sens méfiante, Eva.
On sait maintenant qui a un cœur dans cette équipe. On le sait. Merci, Melra, d'avoir mis le doigt sur ce sujet sensible. Elle aurait pu devenir une grande star en France avec sa prestation dans Forte, mais comme le film ne sortira pas en salle, finalement, sur Amazon Prime, dommage pour elle, elle deviendra seulement une star mondiale dans quelques semaines. Melra Bedia, merci d'avoir été en ligne avec nous cet après-midi.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Le 14 janvier dernier, David Fuenquinos, le romancier, était l'invité de l'équipe est sauvage. Et Stéphane Place entrait dans l'arène pour nous présenter son sujet. Allez, on va remonter un petit peu en arrière dans le temps. Nous sommes toujours avec Mathieu Noël et Eva Rock, sa complice.
Bonne humeur, découverte, éclat de rire, mais aussi trahison et coup tordu, tel est l'ADN de l'équipe est sauvage. Chaque après-midi, par l'entremise d'une folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1, c'est le spectacle tantôt cocasse, tantôt pathétique de la comédie humaine que nous vous offrons. Depuis peu, même nos correspondants en région y vont de leur petite mesquinerie, à l'instar de Stéphane Place, correspondant dans le Sud-Ouest, qui l'autre jour a eu l'outrecuidance d'oublier le nom d'une personne pourtant très importante de cette émission.
Là, je distingue le regard pétillant d'Ève qui a tout compris.
Et Eva veut intervenir là-dessus.
Oui, et respecter aussi les prénoms des collaborateurs, parce que moi, c'est Eva et pas Ève. Stéphane Place.
Bonjour quand même, Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, et bonjour Eva. C'est tellement chouette.
Oh, bien joué.
Vous avez vu en plus, ça rime avec remontada, là, et tout ça.
Oh, bien vu.
Eva, quoi, c'est Eva.
Alors, mon cher Stéphane Place, changer de vie, quitter le pays, sortir de sa zone de confort, comme on dit dans les réunion de DRH, et pousser le concept jusqu'à donner les clés de sa maison, de sa voiture, carrément filer son job. Eh ben, c'est ce qu'ont fait deux enseignants de Gironde partis au Canada pour un an dans le cadre du programme Échange de poste France-Québec. C'est un peu « viens chez moi que je m'installe chez toi » en fait.
C'est le principe, c'est très bien résumé. Boris et Célia sont instituteurs, professeurs des écoles, comme on dit maintenant, à Rosan. C'est un charmant village de Gironde, bordé de vignes. Mais ils avaient envie de vivre une belle aventure avec leurs enfants à l'étranger. Alors depuis cette rentrée, ils ont échangé leur travail, vous le disiez, leur maison, avec un couple d'instituteurs québécois.
Génial.
Cap sur Gatineau pour ces Français, près d'Ottawa, pour donc Boris Léglise et sa famille, les du pelletage pour déneiger le chat ce matin, préparer la boîte à lunch, affronter les moins 20, moins 30 cette semaine hein, et découvrir de nouvelles approches pédagogiques, un vocabulaire différent aussi.
Il a fallu se mettre à jour. En France, j'ai travaillé donc sur la préhistoire, les Gaulois, les Romains. Et puis là, je suis passé donc sur les Iroquois, les Algonquins et puis les Incas, que ce soit sur le plan familial ou professionnel. On va de découverte en découverte. Sur la façon d'enseigner, on va dire qu'on est beaucoup plus ici dans un système de valorisation des bons comportements. Il y a des récompenses individuelles, de classe, des récompenses d'école. Ce qu'on ne fait pas forcément en France et qu'on devrait faire peut-être davantage. Il y aurait un équilibre à trouver entre les sanctions et puis la valorisation. Parce qu'ici, il y a très peu de sanctions. C'est ce qui nous a marqué aussi. On a découvert que nous, le classeur qu'on utilise en France s'appelle ici un cartable. Donc quand moi, je parlais de cartable, parfois les élèves ne me comprenaient pas parce que en fait, je leur parlais du sac à dos. Eux, ils viennent à l'école avec le sac à dos, ils viennent pas avec un cartable. Donc voilà, il y a eu des petits flottements comme ça qui, au final, nous faisaient rire à tous. Après l'accent, les élèves qui, en début d'année, m'ont dit « Monsieur Boris, vous avez un accent ?» J'ai dit, vous rigolez, c'est vous qui avez un accent. Des petites choses comme ça où on s'amuse avec l'accent, mais on se comprend très bien.
Et voilà, c'est Tigidou, Tigidou, comme on dit aux Québécois, je crois que ça veut dire super, tout ça. Boris et Célia et leurs enfants sont aux petits oiseaux, parlent tous les jours. Alors quand je dis aux petits oiseaux, ça, vous pourriez rebondir quand même un petit
oui,
peu.
Oui, ça
je
veut dire quoi aux petits oiseaux
Je pensais que vous le saviez, moi, avec votre grande culture internationale.
Moi, je pensais
internationale.
Que vous aviez bu, hein, Stéphane Place, à ce stade
ouais,
de l'après-midi.
Mais ça, forcément, ça va un peu vite. On vous a dit qu'il fallait valoriser la classe, tout ça. Bah, alors vous, hein, vous en êtes très très loin. Non, aux petits oiseaux, ça veut dire être dans le bonheur, quoi, être super
ah,
bien.
Ah oui,
ouais,
c'est comme les petits oiseaux qui sont au-dessus de la tête de Blanche-Neige là.
Voilà, alors là maintenant oui, on bascule ça, dans là, la version oui. Dessin animé. Alors il y en a un, c'est l'alcool, l'autre la version on est bien, on est très très bien. Je vous le dis quand même, ils sont super heureux, il y a près de 6000 km qui donc les séparent du village de Rosan et de leurs homologues québécois qu'on pourrait aussi aller voir sur une prochaine émission qui sont donc ces deux instituteurs venus de Gatineau qui eux enseignent en Gironde et ils s'appellent tous les jours. Enfin moi je trouve que cette expérience est formidable, voilà.
Ah ouais, génial.
Nous aussi, on trouve que c'est formidable, presque aussi formidable que vous, Stéphane Plaza.
Oh, flatteur.
Ce qui n'est pas peu dire.
Hein. Flatteur.
J'ai essayé de prendre l'accent québécois, mais ça n'a pas fonctionné.
Non, vous avez basculé dans un truc qui,
je ne sais pas. C'est presque l'accent en belge. Je ne sais pas où je suis parti, mais je suis parti trop loin. Bon, je vous remercie, Stéphane.
Je vous embrasse.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Place maintenant au sujet de Fred Goati. Les fans de Michel Berger et de France Gall devraient apprécier. C'était donc ce jeudi dans l'équipe est sauvage sur Europe 1.
C'est une lettre que j'ai reçue hier par Chronopost. À l'intérieur, un CD et un message de dénonciation signé d'un journaliste qui tient à garder l'anonymat, mais dont le nom commence par chat et finit par billet. En règlement, je cite « L'élimination immédiate de Fred Goati dans l'équipe est sauvage au prochain jeu de mots foireux. » Le CD contenant lui, pour sa part, une sélection des 10 jeux de mots foireux.
Comment dire, on jazz, gratis.
Je crois que vous voulez nous parler aussi d'un autre groupe, Chic, parce qu'il y a aussi un grand concert gratuit de Chic en streaming gratuit.
Chic alors. Aujourd'hui, j'ai eu de la Suisse dans les idées.
Oh là là.
Voilà la lettre, de dénonciation se terminait par ces mots.
Je me suis dit, je peux plus me taire, ça suffit quoi.
Fred Goati, je tenais à vous en informer afin que vous sachiez très précisément quel genre
anonyme,
de bonhomme.
Cette lettre, je vous rassure.
C'est vrai. Elle est anonyme. Mathieu Charrier vous écoute. Mon cher Fred Goati, vous nous parlez aujourd'hui de Michel Berger, ou plutôt des trésors cachés de Michel.
Oui, je vais commencer par vous faire une confidence, Mathieu, même si je ne sais pas si je devrais. Mais enfin bon, alors je n'en peux plus, je suis en manque. Un mois, rendez-vous compte que je n'ai pas pu rendre visite à mon dealer, à mon disquaire. Oui.
Oh, premier jeu de mots.
Non, c'est pas un jeu de mots.
Mais non.
Oui,
mon disquaire est un peu mon dealer, mais autorisé. Alors, je vais vous faire une confidence. Je rêve de retourner chez mon disquaire favori pour m'acheter, je sais pas, un CD, un vinyle, une nouveauté, une réédition, peu importe, un disque. Tiens, à ce propos, le marché des rééditions, et notamment des rééditions de luxe, s'est particulièrement développé ces dernières années.
Non, mais Fred, vous n'allez quand même pas nous parler des rééditions de luxe de France Gall et Michel Berger au moment où tous les disquaires sont fermés.
Si, enfin, je vais vous parler d'une réédition de luxe, mais digitale. Je vous invite à vous rendre sur les plateformes de streaming pour réécouter tout d'abord l'édition de luxe, donc, du deuxième album de Michel Berger, Chanson pour une fan, millésime 1974. Alors à cette époque, Michel Berger n'était encore qu'une sorte de, comment dire, d'une douce rumeur pour le grand public, mais déjà un auteur-compositeur et producteur aussi très respecté. Et parmi les chansons rares qui ont été ajoutées à une chanson pour une fan, donc en édition digitale, il y a celle-ci qui s'intitule Le secret.
Elle s'assied près de la porte.
Évidemment, toute ressemblance avec Let It Be des Beatles
n'est
certainement pas fortuite.
Ouais, ouais. Oh, mais elle est belle, cette
grand
chanson.
Grand fan des Beatles, oh là là. Michel Berger. Ouais. Alors, dans le même album, il y avait un morceau très ambitieux, très long. Mon fils rira du rock'n'roll. Et au beau milieu, une voix féminine tombait du ciel. Et c'était la première fois qu'on l'entendait sur un disque de Michel Berger. Ce n'est pas une fée, ce n'est pas Kate Bush. Écoutez bien.
Quand il s'entendra dire je t'aime, il connaîtra la vie. C'est tellement bien. Je saurai lui dire des mots qu'il faudra pour.
Sa voix ne trompe pas.
Hein. Ah ouais, ouais. Immédiatement reconnaissable.
France Gall, ouais. Ouais.
Toute première apparition de France Gall sur un disque de Michel Berger. Alors France Gall était fasciné, on le sait, par les chansons de Michel Berger, qui lui-même s'est rendu compte assez vite que France Gall avait quelque chose de magique dans la voix, de rythmique aussi, d'unique. Alors le premier 33 tours de France Gall, entièrement écrit et composé par Michel Berger, date de 1975. Puis deux ans plus tard, sort Dancing Disco. Alors c'est notre deuxième album du jour, qu'on peut retrouver en édition Deluxe digitale sur vos plateformes de streaming préférées. Et là encore, des morceaux rares ont été ajoutés, comme « Une femme, tu sais ». Mais laissez-moi d'abord citer France Gall. Deux points, ouvrez les guillemets. Il ne faut pas oublier que Michel écrivait tous les textes. Il a donc écrit « Je suis une femme, tu sais ». Et ça me fait rire. C'est un message adressé aux hommes qui n'auraient pas bien compris qu'on est leur égal. Sur une rythmique incroyable et des cuivres joyeux. Démonstration.
Les cuivres, ils sont géniaux, là.
Ah ouais, Stevie Wonder, influence Stevie Wonder, ça groove. moi je voudrais dire quelque chose, parce que en France Gall c'était une jolie blonde avec une voix au perché et un timbre mutin, et on n'a pas toujours pris au sérieux justement à cause de ça, et ça vraiment ça me rend dingue, parce que France Gall c'était une chanteuse très très douée, très technique et qui swingait vraiment.
Pas qui swingait, bon, qui swingait Fred, vous n'allez pas nous dire quand même qu'elle aurait pu être chanteuse de jazz, faut pas exagérer.
Si, avec sa technique et son swing, France Gall aurait pu faire une carrière à la Staceken, par exemple. France Gall, France Gall était, et beaucoup de musiciens le disent, France Gall était musicienne dans l'âme, elle adorait ses musiciens. Tiens, du grand batteur André Ceccarelli,
un niçois, bien sûr.
Bah, elle disait qu'il lui permettait de chanter en toute liberté parce que son jeu était, je cite, un mélange de tension et d'énergie gaie. Pas étonnant donc que Michel Berger ait encore une fois trouvé les mots justes. Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ?
Musique,
mesdames, messieurs. Une chanson que je rêvais depuis tout petit de lancer sur Europe 1, la radio où je l'ai découverte en 1977.
Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie.
Voilà, donc pour les gens comme nous tous confinés, il y aura d'autres albums de France Gall et de Michel Berger qui vont ressortir
en
édition Deluxe digitale ces prochaines semaines.
Et peut-être même un duo virtuel avec Eva Rock qu'on a entendu fredonner sur musique. Et beaucoup d'auditeurs nous disent, nous envoient des messages pour nous dire vite, un duo. On veut un duo virtuel. Merci.
Avec vous, Mathieu.
Fred Poëti, Mathieu Charrier, vous qui êtes aussi mélomane, un mot sur Michel Berger.
C'est pas mal.
Bel hommage.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Et à suivre dans l'équipe est sauvage, les conséquences du Covid-19 sur l'immobilier.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Apprendre et se détendre chaque après-midi sur Europe 1 avec Mathieu Noël. On reste avec Mathieu Noël, mais aussi Eva Rock et Axel de Tarlé, dont on va découvrir tout de suite le sujet.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, plus qu'une émission divertissante, une véritable boule anti-stress. Pardon, j'ai pas trouvé de bruitage crédible pour la boule anti-stress. Mais il est vrai qu'en ces temps de confinement, on a besoin de positiver. Il ne faut pas non plus éluder pour autant les questions qui vont se poser après le confinement. L'une d'entre elles va être cruciale. Quid de l'impact de la crise sur le marché immobilier ? Pour tenter de répondre à cette question, voici le meilleur journaliste économique d'Europe. Pour vous situer son niveau, c'est le seul salarié de la boîte qui, lorsque notre grand patron s'exprime, peut déclarer d'un ton badin.
Je vois qu'il y a un message d'Arnaud Lagardère. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh, je lis ça en diagonale.
Oh, enfin !
Espérons qu'il ne vous vire pas en diagonale non plus. Axel de Tarlé, répondez. La pierre est-elle toujours une valeur refuge à l'heure du coronavirus ou pas ? Je suis suspendu
à
vos lèvres,
Axel. D'abord, ce que vous venez de passer est un montage honteux. Hein ?
Je oui, c'est vrai.
Évidemment, tous les mails de la direction. Alors, quant au marché de l'immobilier...
Vous parliez de Bolloré, bien sûr. Oui, alors,
quant au marché de l'immobilier... Bah écoutez, on a déjà des chiffres. Hein, le nombre de transactions a chuté de 80%. Voilà.
Ah oui,
et pourquoi est-ce qu'il chute ? Bon, alors, d'abord, il y a des raisons techniques. C'est compliqué d'acheter à distance ou de finaliser la vente. Mais c'est aussi tout simplement parce que les acheteurs se disent « Oh là là, mais il est urgent d'attendre ». Et si vous voulez, on voit très bien que... Comment dire, l'urgence a changé de camp. Autrefois, on achetait vite avant que les prix ne montent. Eh bien, maintenant, on se dit, oh là là, il vaut mieux attendre. Et si les prix baissaient avec cette crise dont on nous dit que c'est la crise la plus violente depuis un siècle. Donc, si vous voulez, l'immobilier, c'est pas quelque chose de totalement hors sol. Si dans l'économie réelle, il se passe quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un siècle, forcément, le prix des choses, et notamment de l'immobilier, doit s'en ressentir. Quand vous ne pouvez pas avoir impunément 8 millions de salariés en chômage partiel et qui vont continuer à acheter des appartements, des placards à balais de 100, 200 000 euros, 300 000 euros, etc. Donc, forcément, cela aura un impact. Et puis, même dans les têtes, si vous regardez, il y a l'INSEE la semaine dernière qui a publié une carte de France des départements qui ont perdu des habitants à l'occasion de ce confinement. Ben, vous avez deux types de départements, vous avez tous les départements du ski, bon ça c'est à part évidemment, hein. Mais vous avez ensuite les deux seuls qui ont perdu des habitants, c'est Paris et les Hauts-de-Seine. Et ce que ça veut dire, parce que quel a été le réflexe avec ce confinement, ça a été les gens sont allés chez eux. On va chez soi, ou en tous les cas ce qu'on considère être chez soi. Et donc dans la tête de pas mal de Parisiens, eh bien être chez soi ben c'est pas forcément rester à Paris. Ou en tous les cas, c'est pas le home sweet home. On a envie, vous voyez, d'être au vert quand il s'agit d'être confiné. Et ben ça veut dire quelque chose. Et surtout avec le développement du télétravail, ça pourrait laisser des traces dans l'inconscient collectif. Finalement, est-ce qu'on n'est pas fou à acheter des appartements hors de prix dans le cœur de Paris, dans lequel, au fond, on ne se sent pas bien et en cas de coup dur, on n'a qu'une seule envie, c'est de s'en échapper. Donc, si vous regardez
Je peux me permettre une petite réflexion à ce stade, Axel, parce que je partage votre analyse. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir cet effet psychologique de se dire, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on paye des salaires, des loyers délirants dans des grandes villes alors qu'on pourrait être au vert? Mais aussi, vous dites que là où il y a eu une migration, c'est de Paris et des Hauts-de-Seine vers la campagne. C'est juste qu'à Paris et dans les Hauts-de-Seine, il y a des très hauts revenus qui ont la chance d'avoir des maisons secondaires, en fait, et qui donc peuvent aller à la campagne. C'est pas peut-être le cas dans d'autres villes de France où on n'a pas forcément une maison de campagne tous à disposition.
Exactement, mais les professionnels de l'immobilier, je pensais à une interview d'un professionnel de l'immobilier dans Le Monde la semaine dernière, vous voyez, je vais me cacher derrière un professionnel, qui disait ce besoin de vert va peut-être faire en sorte que ceux qui achetaient dans le cœur de Paris vont peut-être acheter en banlieue, et vont peut-être se dire, mais au fond, une maison et un jardin...
Et donc relâcher la pression sur les prix dans
le cœur des grandes villes, qui avaient beaucoup augmenté, hein, et c'était vrai également à Bordeaux, à Lyon, etc., où les prix ont triplé hein, en 20 ans. Alors néanmoins, si vous demandez aux professionnels de l'immobilier, ils disent oui, ça va baisser, mais ça ne va pas s'effondrer. En fait, il y a une force de rappel très forte, c'est que ben d'abord, les gens épargnent en ce moment, hein, parce qu'on a beau dire, on ne peut plus dépenser, on ne peut plus dépenser en vacances, on ne peut plus aller au cinéma, etc. Et donc, il y a une épargne, et cette épargne, eh ben, les gens se disent, est-ce que c'est bien sage de la mettre en bourse? Et voilà. Quand vous voyez qu'en 4 jours, en 4 séances, la bourse a chuté de 30%. Donc les gens se disent, mais quel est ce placement où en une semaine, je perds un tiers de ma fortune? Et à côté de ça, eh ben justement, la pierre a paradoxalement, surtout en cette période de confinement, symbolise tout. D'abord, la pierre, si elle chute, on ne s'en rend pas compte. Vous n'avez pas tous les matins le cours de l'immobilier qui vous est dit à l'antenne. Hein.
Et donc, puis vous la êtes chez vous, quoi. Ouais.
Voilà. Et en plus, on est chez soi, donc ça a ce côté rassurant. C'est pour ça que ça, c'est une force de rappel qui fait que l'immobilier va toujours avoir cette vertu de l'épargne. Il n'empêche, on peut penser que les prix délirants atteints dans le cœur des grandes villes, eh bien, ces prix-là pourraient s'aplanir. Écoutez, tant mieux si ça peut relâcher un peu la pression. Évidemment. Et faire en sorte que les grandes villes s'aèrent un peu et retrouvent des étudiants et retrouvent des classes moyennes qui nous font vivre, des professeurs, des infirmières, etc. Et retrouvent un peu cette mixité qui fait la société française. C'est finalement, c'est une conséquence finalement positive de cette épidémie.
Axel de Tarlé, le Che Guevara de l'éco, sociétal et même social. Axel, vous avez changé. Et pour eux, c'est bien. Une analyse à chaud mais lucide. Comment vous avez trouvé votre prestation?
Pleine de défauts, absurde et désespérée.
Oh mais non, c'était
très bien. Ne soyez pas dur avec vous-même, Axel. Vous étiez super.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage, les meilleurs moments, ça continue dans un instant avec un best-of quiz, un vrai-faux, avec Eva Roch et Jérôme Commandeur.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Le 16 décembre dernier, Mathieu Noël recevait l'humoriste et ancien chroniqueur d'Europe 1, Jérôme Commandeur, à l'occasion de son spectacle Tout en douceur. Et bien, on va le retrouver dans le duel qu'il opposait à Eva Roch.
Taquinez vos zygomatiques et notre passion, stimulez vos neurones, notre devoir. Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission hybride qui chaque jour vous proposait un quiz de culture G rieur qui opposait un des plus beaux cerveaux de la rédaction d'Europe 1, Eva Roch, à notre invité. Dans 97% des cas, c'est vrai, c'est notre invité qui l'emportait. Mais contrairement à ce que d'indignes supputations ont laissé penser sur le net, ce n'est pas la culture d'Eva qui est en cause et qui est immense. Ce n'est pas non plus, comme l'ont écrit de vils détracteurs, je cite, « elle n'aurait pas inventé le fil à couper la pisse à la dière ». Non, c'est simplement qu'Eva boit. Alors, moins depuis qu'on est confiné, mais quand même, hier encore, on sentait qu'elle ne tournait pas à la Kézak.
Alors une fois encore, évidemment, Shrek défonce les codes des codes. C'est moi qui suis du français, attendez.
Et qui s'appelle Oreo Jack Daniel. Bref, Eva, pour vous remettre de vos émotions d'hier, je vous propose d'écouter quelques-unes de vos plus belles réponses dans le quiz. Jérôme Commandeur est opposé à Eva Rock. C'est le moment de ce quiz thématisé. En hommage à la wetteur de votre affiche de spectacle, nous faisons un quiz sur la douceur, les câlins, les bisous. Aujourd'hui, c'est un vrai faux, tout simplement. C'est parti. Jérôme Commandeur, à la cour de Louis XIV, un serviteur était appelé porte-coton. C'est lui qui assistait le roi pendant ses besoins naturels, car le derrière royal était exclusivement essuyé avec du coton. Vrai ou faux ?
Oh oui, moi ça me paraît vrai.
Ça ouais. Vous paraît vrai, oui.
Ça vous choque non, pas, ça, hein, par ailleurs.
Ça vous choque pas, finalement. Pas.
Non. Oui. Mais si ça se trouve, ça continue encore. Peut-être qu'à l'Élysée, aujourd'hui, il y a des porte-coton.
Ah, eh bien, c'est vrai. Porte-coton avait également la responsabilité de la chaise percée. C'est-à-dire un beau métier.
Oui,
elle devait être toujours prête. Vous aviez...
Toujours percée.
Surtout, oui.
Peut-être que Franck Ferrand se souvient de cette époque.
Oui. Alors, je suis sur la radio d'en face, mais effectivement, porte-coton. Attendez, je regarde mes fiches, car ce sont mes stagiaires de collège qui m'ont fait mes fiches. Où est-ce que... Alors, attendez, ça, c'est la convention de stage du petit Jordan Bido du 5e B, donc c'est pas ça qui m'emmerde. J'ai pas pu travailler hier, j'étais à la remise de Légion d'honneur d'Evelyne Leclerc, présentatrice de télévision. Alors, porte-coton, voilà, nous y sommes. Porte-coton, donc porte-coton.
Jérôme Commandeur, toujours exceptionnel. À brûle pour point, hein, parce qu'autant on parlait tout à l'heure de textes préparés pour GQ.
Oui.
Et là, c'est aussi.
Porte-coton,
un grand improvisateur,
est né le 18 Brumaire de Thermidor.
Un point en tout cas pour Jérôme Commandeur. Oui.
Ça commence et on embrasse Franck, qui est un historien exceptionnel.
On embrasse très très fort, Franck Ferrand. Ouais. Eva Rock, 1983, c'est la naissance des bisounours. Et la bisounours jaune s'appelait Eva. Vrai ou faux ?
Bon ?
Jérôme salue déjà la qualité de la question, j'ai l'impression. Je te dis que Jérôme a participé à des quiz, mais alors.
Ça
là...
m'étonnerait qu'un bisounours s'appelle Eva. Non, je dis non.
Réfléchissez bien.
Non, je dis non.
Vous dites non ?
Ouais, je dis non.
Vous avez raison, c'est totalement faux. Il y avait gros bisous, gros dodo et gros jojo, entre autres.
Auquel vous vous identifiez, vous, Eva ?
C'est la question qui se pose.
Gros jojo.
Gros jojo. Eva Rock, Jérôme Commandeur. Là, vous répondez ensemble. Un internaute s'est amusé à enregistrer tous les cris de Chewbacca dans tous les films de la saga Star Wars. Il les a mis bout à bout pour que ça fasse une chanson. Laquelle ? 1. Chanson douce d'Henri Salvador. Le chant de Noël Douce Nuit ou Antisocial de Trust.
Moi, je dirais antisocial.
Ouais, moi aussi, j'aurais dit antisocial, mais ça paraît presque trop évident. Peut-être la deuxième, là. Peut-être la deuxième, là. C'est quoi, c'est chanson douce ?
C'est Chewbacca.
La deuxième, c'était quoi ?
C'est Douce Nuit.
Douce Nuit, allez, Douce Nuit.
Vous dites Douce Nuit, vous, Jérôme ?
Allez, antisocial.
Antisocial, la réponse est la suivante.
Mais c'est pas Chewbacca. Le type, il s'est mis la tête dans l'eau, il a fait des bulles avec une grosse paille.
Mais c'est Chewbacca enregistré dans tous les épisodes de la saga Star Wars. Mais comment osez-vous remettre en cause le travail d'un artiste ?
C'est beau.
On dirait de la sculpture sonore.
C'est ça, oui.
Eh bien, la vidéo a été vue près de 8 millions de fois. Elle s'intitule simplement Silent Night by Chewbacca. Voilà, ça peut. À Noël, on repasse toujours les mêmes trucs. Là, on met la version Chewbacca. Tout de suite, ça crée quelque chose dans la maisonnée.
Mais j'ai gagné.
Ça va. Eva Rock. Qui a le plus d'abonnés sur Facebook ? Franck Ribéry, Patrick Bruel ou Bou, le chien le plus mignon du monde ?
Ouais, je crains le pire. Hein. Bou, le chien.
C'était trop facile, puisqu'évidemment, c'était effectivement Bou, le loup de Poméranie. 16 millions d'abonnés. Franck Ribéry, 1,5 million. Patrick Bruel, 1,1 million. Mais Franck et Patrick sont quand même plus forts que Bou. Vous savez pourquoi ?
Oula, je cherche la vanne. Allez-y.
Non, bah parce que Bou est mort en janvier de cette année à l'âge de 12 ans. J'aime bien terminer sur une note positive. Jérôme Commandeur, à quoi faisait référence notre invité Michel Simès vendredi lorsqu'il déclarait
« Vous avez qu'à les prendre tous les deux dans les mains et vous verrez qu'il y a une grosse différence de température.
» Des balles de ping-pong ?
Pas loin.
Vous pouvez le dire, hein ?
Des œufs ?
Pas loin. Presque. On chauffait.
Jérôme, vous avez la réponse au bout de la langue, si j'ose dire.
On a dit qu'on parlait pas de nous. Bon, je le dis alors.
Oui.
Des testicules ?
Oui.
Bonne réponse, Jérôme Commandeur remporte le quiz grâce à la question bonus. Effectivement, Michel Simès, étonnamment, la conversation est allée sur les testicules. On ne sait pas pourquoi, c'est étonnant de la part
C'est pas le genre
de la maison.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël pour conduire cette équipe est confinée mais motivée. Et place maintenant à la dernière chronique, elle est signée Anis Hamida. Il nous offrait ce mercredi une bonne et une mauvaise nouvelle.
Un contre tous et tous contre un. Vous écoutez l'équipe est sauvage. Le grand tournoi qui chaque après-midi oppose les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G et en ce moment de votre quotidien. Or, notre dernier concurrent du jour est une pointure, un ponte dans son domaine. Alors oui, c'est vrai, pour tenter de l'affaiblir, de saper sa crédibilité journalistique, certains de ses collègues aiment à rappeler que dans sa jeunesse, il a tenu le premier rôle dans certains films pour adultes très très explicites, notamment le classique de Marc Dorcel.
Trouve-moi dans la salle de réu.
Mais tout ça est bien loin. Aujourd'hui, Anissé Mbida s'est reconverti avec succès dans l'informatique. Et cet après-midi, Anissé, vous nous livrez une good news et une fake news.
Oui, oui, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. On commence par laquelle ?
La mauvaise.
Alors la mauvaise, en tout cas c'est une mauvaise nouvelle pour les amateurs de théories du complot, ben, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les ondes de la 5G et le coronavirus. C'est une fake news, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Alors vous allez comprendre, on va faire un petit rappel des faits. Vous avez peut-être entendu parler, la semaine dernière en Angleterre, il y a eu des dizaines d'antennes 5G qui ont été incendiées ou vandalisées. Et cette semaine, c'est le même phénomène qui est en train de se produire et qui est exporté, on va dire, aux Pays-Bas, où là encore, on a saccagé des antennes 5G des opérateurs. Et l'explication, eh bien, c'est qu'il y aurait une théorie complotiste qui voudrait qu'il y ait un lien entre la pandémie de coronavirus et le déploiement de la 5G. Non. Et ceux qui colportent cette rumeur, ils en veulent pour preuve que la ville de Wuhan, en Chine, était elle aussi déploiement de la 5G quand l'épidémie a commencé. Bref, ils veulent dire qu'en fait, des ondes auraient facilité, voire provoqué la contamination au virus. C'est évidemment une théorie qui est colportée en ce moment sur les réseaux sociaux par tous les personnes qui sont des anti-5G aussi, ou des anti-ondes. Et donc, depuis, les autorités sont obligées de faire des appels au calme, avec un argument choc, parce que vandaliser les antennes 5G, comme on ne peut pas distinguer une antenne 5G de 3G, de 2G, ça veut dire handicaper tout le réseau cellulaire, qui permet notamment aux familles de rester en contact, et surtout aux médecins
d'intervenir.
Service d'urgence.
Ouais, c'est la 5G de la connerie quand même.
N'a pas de limite. Mais donc, il n'y a aucun lien, pour nous rassurer, entre les ondes et la propagation du virus. On va être très clair là-dessus. Hein. Aucun lien.
Écoutez, moi, je peux que vous renvoyer vers les différentes études. Il y en a une dizaine, il continue d'y en avoir, et à chaque fois, elles disent toutes la même chose. Dans des conditions d'usage normales, on n'a pas démontré de danger pour la santé des différentes ondes. Mais vous savez, c'est exactement comme le glyphosate dans l'alimentation. On a beau démontrer qu'il n'y a pas de risque majeur, il n'y a pas de risque majeur du glyphosate pour l'alimentation, puisqu'il y a des niveaux qui sont extrêmement faibles. Mais il y a toujours quelqu'un qui va détourner une étude qui a été faite dans des conditions extrêmement particulières, et puis insuffler ce petit doute. Puis comme on aime bien avoir peur, on finit par y croire. Et souvent, tous ces colporteurs de mauvaises nouvelles ou de fake news, ils ne le font pas pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a quand même beaucoup plus dangereux aujourd'hui que les ondes et le glyphosate pour la santé. Je pense à l'alcool de notre ami Emmanuel Duteil, voiture. C'est quand même beaucoup plus dangereux. mais souvent, en fait, ce n'est pas pour des raisons sanitaires, c'est pour des raisons politiques. Et là, en l'occurrence, ceux qui sont derrière ces fake news, ce sont des gens qui sont contre l'usage du téléphone portable, qui sont contre la société numérique et qui voudraient qu'on arrête d'utiliser nos téléphones, de se connecter sur Internet, d'utiliser les réseaux sociaux, etc. Et quelque part, les ondes, c'est une espèce de bouc émissaire pour...
C'est paradoxal parce que c'est quand même des gens qui utilisent les réseaux sociaux justement pour propager leurs nouvelles.
Pour
propager
les fake news.
Mais non, ils le font sur des ordinateurs fixes.
Oui, c'est ça.
Internet fixe.
Alors, une bonne nouvelle maintenant à Nice pour compenser un peu.
Alors ça, c'est toujours pour les adeptes, c'est une bonne nouvelle cette fois pour les adeptes du numérique, puisqu'on va enfin pouvoir prêter des films qu'on a téléchargés sur des plateformes comme on prête aujourd'hui un DVD physique. Alors, c'est un petit peu compliqué, la méthode est un petit peu compliquée. Il faudra d'abord créer un compte sur une plateforme qui s'appelle Movies Anywhere. C'est un service qui a été créé par Disney, mais qui a fini par ramener vers lui tous les grands studios de cinéma français, et qui va, enfin en français et même mondiaux, et qui va permettre de synchroniser tous les films qu'on a achetés sur iTunes, sur Amazon Vidéo, sur Google Play, et même, vous savez, les copies numériques, les copies digitales de DVD. Vous avez souvent un petit autocollant sur son DVD, et si vous voulez la copie digitale, ou sur son Blu-ray, on va taper un code directement sur un site et on télécharge la version numérique. Et bien tous ces fichiers numériques qu'on a un peu partout, ils peuvent être synchronisés sur la plateforme Movies Anywhere. Et donc, la personne à qui on veut prêter le film, il faudra qu'elle crée un compte sur cette plateforme.
Ah, on ne peut pas lui faire un cadeau surprise, c'est ça le problème?
Ah oui, non. Ouais.
C'est ça qui met le fichu.
Bah, non, on ne peut pas lui faire un cadeau surprise. Et une fois qu'il a créé son compte, eh bien, on peut lui prêter jusqu'à 3 films par mois, rien qu'avec son adresse email. C'est-à-dire qu'on donne l'adresse email de la personne.
Ah, ensuite, c'est facile.
Et ensuite, c'est facile. Alors, c'est même mieux qu'un DVD parce qu'on peut partager le même film à 3 personnes et continuer à le regarder à la maison, ce qu'on ne peut pas faire avec un DVD, par exemple.
Ah bah oui. Évidemment, c'est mieux.
Il y a quelques petites restrictions quand même. On n'a que 14 jours pour le visionner. Et une fois qu'on a commencé, on n'a que 72 heures pour finir le film. Donc, c'est une petite restriction, mais ça reste raisonnable. Malheureusement, il n'y a pas de téléchargement. Donc, on est obligé d'être connecté. Hein, c'est forcément du streaming quand on regarde la vidéo. Et puis, tous les titres ne sont pas disponibles. On ne peut pas prêter n'importe quel titre. Aujourd'hui, il y a un catalogue à peu près de 7000 titres qui sont disponibles.
Oh, bah quand même.
Oui, bah ça vient de commencer. Hein. 7000 titres qui sont disponibles au partage. Et c'est 80% du catalogue qui peut être partagé. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que les dernières nouveautés, hein, vous savez, tous les films qui viennent juste de sortir en DVD, ils ne sont pas partageables tout de suite. En fait, c'est à la discrétion des studios. Et donc, il y a toujours ce petit problème avec les studios qui disent, bon voilà, vous pouvez partager votre film, vous pouvez le prêter, mais qu'au bout de 3 mois et pas tout de suite à la sortie du film.
Et Anissa, c'est maximiser pour quand pour le grand public, pour nous?
Ça va arriver d'ici septembre, pour la rentrée. Ça va être prêt pour le moment, c'est en bêta aux États-Unis et ça arrive en Angleterre, et pour nous en France, ça arrivera normalement à partir de la rentrée. Moi, je trouve que c'est quand même un bel effort à saluer, parce que aujourd'hui, moi, je recommande à tout le monde de continuer à acheter des biens physiques, hein, que ce soit pour les vidéos, les livres, la musique. Il vaut mieux acheter des biens physiques parce qu'au moins on peut les prêter, on peut les revendre, on peut en faire ce qu'on veut, on peut les donner à quelqu'un, alors que sur les fichiers numériques, on est extrêmement limité. Donc c'est quand même intéressant qu'il y ait des initiatives comme ça qui nous permettent de faire un peu la même chose avec les produits numériques.
Merci beaucoup Anissé Mbida pour cet éclairage de l'avenir proche. Un peu déçu qu'on n'ait pas parlé de vos fameuses petites fleurs, mais quand même, c'était intéressant.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.